politique et religion chrétienne par le père Philippe à Rimont le 20 décembre 1988.
Continuons cette recherche au point de vue éthique chrétienne et progressivement politique chrétienne. C'est un petit peu le but pour fêter l'anniversaire de la prise de la Bastille. Et là, on se posait la question à propos de la liberté. Mais c'est important parce que ça sera le parallélisme avec le péché. C'est un peu une question qui était posée ce matin, à propos du péché. Est-ce que le péché, au plan purement philosophique, et le péché au niveau chrétien, est-il de même nature? Oui, c'est la question de la volonté, puisque tout péché est un acte volontaire. Si donc l'aspect volontaire n'est pas le même, il y a 3 degrés du volontaire. Il y a 3 degrés de liberté. Parce qu'il n'y a pas toujours un parallélisme avec le point de vue, justement, de la négation. La négation par elle-même, ou la privation, elle est relative au fondement. En elle-même, elle n'a pas de degré. Elle n'a de degré qu'en fonction de son fondement. Le péché, c'est toujours le péché. C'est toujours la négation d'un ordre. Mais vous voyez bien, puisque c'est relatif à l'ordre, à la mesure, suivant les degrés plus profonds de cette mesure, on aura le péché plus ou moins profond. Alors, il faut regarder la liberté pour mieux comprendre le caractère particulier du volontaire. Alors, première précision, je l'ai déjà fait avec vous, du moins ceux qui ont suivi les autres cours d'éthique. Volontaire et libre ne sont pas adéquats. Descartes met volontaire et libre comme identiques pour le réalisme dans lequel nous nous plaçons, Aristote et saint Thomas, le point de vue volontaire n'est pas adéquat à la liberté. Je crois que c'est la première chose qu'il faut bien comprendre. Ça. L'acte volontaire, c'est un acte d'amour. Et je ne peux pas mettre une adéquation complète entre, vous allez tout de suite comprendre, volontaire, amour, liberté. Quelle différence y a-t-il entre les trois? Pour Descartes, volontaire et libre sont adéquats, et l'amour disparaît. Que l'amour n'existe pas au plan spirituel. L'amour n'existe qu'au plan passionnel. Au plan spirituel, on n'a qu'une volonté d'efficacité. Il n'y a pas la volonté affective, amoureuse. Il n'y a qu'une volonté d'efficacité. C'est un des points très intéressants chez Descartes. Et qui explique du reste alors, à la suite de Descartes, des quantités de déviations. Mais la liberté devient un absolu. Identique à la volonté. Identique, du moins, au volontaire, à l'acte volontaire. Pour nous, un acte volontaire, il provient donc notre appétit spirituel regardant le bien. ça que le premier acte volontaire est un acte d'amour. On a vu longuement ça à Saint Yoda. C'est très important de comprendre que l'acte premier de la volonté est un acte d'amour spirituel. Cet acte d'amour spirituel est naturel. L'appétit naturel. Il est volontaire, mais il n'est pas libre. Il y a un premier acte d'amour qui est au-dessus de la liberté. Ça explique des quantités de choses. Quand les gens vous disent « Ah, oh, que voulez-vous, j'aime, je ne suis pas libre. » On entend ça. Ça fait partie de ces tentations. J'allais dire « Mais c'est bien évident, tout acte d'amour n'est pas libre. » Ça prouve qu'on n'a jamais aimé, si vous dites ça. Le premier acte d'amour n'est pas libre. On aime un bien. C'est normal, c'est naturel d'aimer bien. D'aimer le chocolat, est-ce que c'est libre? Est-ce qu'il y en a qui ne l'aiment pas? D'aimer l'alcool, est-ce que c'est libre? De vider beaucoup de bouteilles d'alcool, ça c'est libre. Hein, ça c'est différent. C'est l'alcool en boîte, vous voyez? Alors c'est différent. Mais aimer l'alcool, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Vous voyez? Quand on dit ça, on montre bien que ce n'est pas libre. Il y a en nous un amour premier qui n'est pas libre. Pourquoi aime-t-on certaines personnes et on n'aime pas d'autres? C'est spontané, c'est naturel. Ça dépend d'une quantité de choses. Il y a un appétit naturel qui est au-delà de la liberté et qui est le fondement de tout acte moral. Et cet appétit libre, cet appétit, je veux dire, nécessaire, qui s'impose, je peux l'accepter ou pas l'accepter. Ah. Donc quand vous dites, que voulez-vous, je ne suis pas libre, j'aime, on peut toujours dire, vous êtes libre d'exercer cet acte d'amour, de ne pas l'exercer. Vous pouvez très bien vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez spontanément et quand vous savez que ce n'est pas bien parce que cette personne n'est pas libre, elle est déjà engagée, elle est mariée ou elle s'est donnée au Seigneur, pas libre. Vous ne pouvez pas l'aimer d'un choix libre. Vous savez que ce n'est pas bien. Ce serait contraire à quelque chose de beaucoup plus foncier. Le respect qu'on doit vis-à-vis d'une personne. À ce moment-là, vous pouvez suspendre cet amour. Ne pas dire, je ne t'aime pas. Non, 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 non. Vous pouvez suspendre cet amour. Et vous pouvez très bien orienter votre vie autrement. Et c'est trop fort. Vous partez en Amérique. On s'en va. Ou en Afrique, quoi. Ça dépend des cas. Ou bien on vient d'Afrique, en Europe. Ça dépend des cas. Si c'est un va-et-vient, on est. Le premier amour s'impose à nous, nécessairement. On le constate. Mais on est libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Et la liberté joue là. Oui. Donc, toute liberté présuppose un amour. Ça que je voudrais que vous compreniez. On a beaucoup insisté là-dessus. À la naissance de l'éthique. Et vous voyez que si je dis que toute liberté présuppose un amour. Ça, c'est un petit travail très intéressant. Parce que on peut montrer les philosophes qui disent l'inverse. C'est toujours intéressant. Descartes n'est pas un imbécile. Mais il dit beaucoup de bêtises. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui disent beaucoup de bêtises et qui ne sont pas des imbéciles. La volontaire n'est donc pas adéquat à la liberté. C'est deux choses différentes. C'est de loin deux structures différentes. Et la liberté présuppose toujours l'amour. Il n'y a pas de liberté sans amour. Tandis qu'il peut y avoir un amour sans liberté. C'est encore une chose qui peut faire comprendre la différence entre les deux. L'amour porte sur ce qui est mon bien et qui est capable de m'attirer. La liberté, c'est ma volonté qui est capable de s'appliquer, d'accepter, de reconnaître cet amour et de l'accepter. Ou de choisir tel ou tel moyen en vue de cette fin, en vue de ce bien. Et donc, bien comprendre que l'objet propre de l'amour n'est pas le même que celui de la liberté. Sur quoi porte la liberté? Sur quoi porte l'amour? Qu'est-ce qui spécifie un acte de liberté? Qu'est-ce qui spécifie un acte d'amour? Et cette première distinction, tout à fait élémentaire, hein, mais qui sont justement d'autant plus difficiles à bien préciser. Parce qu'elles sont très élémentaires. Au-delà de l'amour, il n'y a rien. C'est fondamental, c'est premier. C'est un acte volontaire qui est un acte d'amour. La liberté porte toujours sur quelque chose de possible. Ce qui s'impose à vous en acte ne détermine pas la liberté. Il faut toujours que le possible apparaisse pour qu'il y ait un acte de liberté. Le possible, il se loge à des niveaux différents. C'est pour ça que vous aurez diverses modalités de liberté. En fonction que le possible se loge différemment. Vous avez le possible par rapport à l'exercice. Je peux me laisser prendre par cet amour. Ça, c'est bien évident. Chaque fois que ça revient, imaginativement, je me délecte, comme c'est bon d'aimer et d'être aimé. Là, je me délecte, vous voyez, j'accepte. J'ouvre toutes les portes. Au contraire, je me dis non, non. C'est trop dangereux. Si je commence à mettre le petit doigt dedans, je sais pas où ça va aller. Donc je me détourne. Je peux me détourner. Je peux suspendre l'exercice de cet acte et m'orienter autrement. Prendre une déviation. Mais je me mets à travailler. Quand j'ai un boulot très fort et très grand, ça ne me laisse pas de temps pour aimer. Il faut du temps pour aimer. Si je suis très occupé, détourne. Il faut comprendre tous les moyens qui nous permettent de se détourner d'un amour qu'on juge devoir éviter. D'un premier amour qu'on juge devoir éviter. Ce premier duvet du cœur, hein, premier amour. Première chose qui nous réchauffe, réconforte, qui nous donne un élan. On peut se détourner. Mais on peut se détourner. Donc il y a une possibilité. Et là, ça qui serait très intéressant, pourquoi on peut se détourner? Comment ça se fait qu'on peut se détourner? Puisque ce premier amour s'impose nécessairement. Donc il devrait tout commander. Comment se fait-il qu'on peut se détourner? C'est que cet amour est limité. Et donc il n'est pas adéquat. Ce premier amour qui provient d'un bien, qui lui-même est limité, n'est pas adéquat à l'aspect universel de la volonté. C'est pour ça que saint Thomas dit toujours que c'est la ratio boni qui spécifie la volonté et qui fait comprendre comment il peut y avoir liberté. J'espère que vous comprenez bien ça. C'est très intéressant parce que Quand Satan essaie, il passe très vite, et on ne comprend pas toujours très bien. Et c'est très intéressant de voir comment Saint-Thomas lui montre la naissance de la liberté. Et c'est très important de voir la naissance de la liberté pour comprendre les différents types de liberté. Alors voyez, là, c'est le langage de Saint-Thomas. La volonté, qui est un appétit spirituel. Cette volonté, qui est un appétit spirituel, porte sur le bien. Et si je veux préciser que c'est un appétit spirituel, qui implique donc une connaissance, et une connaissance intellectuelle, et donc cet appétit spirituel est déterminé par la ratio bonis. Or, la raison de bien est universelle et dépasse toujours, est au-delà de tout bien particulier. Ratio bonis n'est pas adéquate à un bien particulier. Or, quand il y a un amour qui naît en moi, c'est à l'égard d'un bien particulier. Ça, c'est sûr. Qui n'est donc pas adéquat à cette ratio bonis. Et donc, il reste dans la volonté quelque chose qui n'est pas déterminé. Ma volonté n'est jamais, d'une manière exhaustive, déterminée par tel bien. Elle garde une possibilité d'être déterminée par autre chose. Si elle était déterminée adéquatement, ce premier amour s'imposerait à moi de façon nécessaire, et je ne pourrais plus. C'est pour ça que Saint-Thomas dit que ce n'est que par la connaissance et la vision béatifique qui me met en face du bien absolu qui est Dieu, que je suis entièrement saisi par cet amour. Un super amour qui dépasse toute liberté. Oui. Tandis que tant que vous êtes ici sur la terre, vous n'avez jamais rencontré le bien absolu. Même si vous dites, oh, c'est la personne que j'ai attendue toute ma vie, Miss Idéal. C'est donc le bien idéal. Tout ça, c'est imaginatif. C'est pas vrai. Miss Idéal ne venait pas à Radio Bonnie. Ça, c'est sûr. Parce qu'elle est en chair et en os. Tandis que Ratio Bani n'est pas comme ça. C'est quelque chose d'universel. Donc, mon bien, ma volonté, n'est jamais adéquatement prise par tel ou tel bien. Ça, c'est le conditionnement même de mon appétit naturel. Qui s'impose à moi. Et ça peut m'apparaître comme s'imposant à moi d'une façon absolue, sur le moment, le coup de foudre. Ah, oh, ce bien extraordinaire. Regardez cette déesse. Hein? C'est extraordinaire. J'avais jamais cru que ça existait. On est saisi, on est pris, on est porté. Tout amour est extatique. Vous voyez? Là, on a une extase. Eh bien, quand on réfléchit, on s'aperçoit que mon appétit spirituel ne détermine jamais totalement ma capacité d'aimer. Ma capacité d'aimer, elle est commandée par la ratio bonis. Le seul bien qui détermine entièrement ma capacité d'aimer, c'est le bien suprême, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on n'est jamais satisfait par un bien limité. Ça, c'est sûr. On peut imaginativement dire « Ah, je suis au sommet du bonheur ». Vous avez toujours entendu ça. Quand vous avez béni un mariage, « Je suis au sommet du bonheur ». Oui, oui, attendons le lendemain. Là, à ce moment-là, c'est tombé d'un cran. Parce que la capacité d'aimer n'est jamais adéquatement déterminé par un bien particulier. Si grand que soit ce bien, bien c'est ça qui fonde la liberté. Parce que le bien particulier n'est pas adéquat à la ratio humaine. Et donc il y a une possibilité d'un autre acte volontaire qui consiste à dire non. Je fuis. Je tourne le dos. Ou qui au contraire dit oui, j'accepte. Je sais que c'est limité, mais c'est bien. C'est bien. C'est quelque chose qui d'une certaine manière, me satisfait. Donc, j'aime. Et c'est très, très important de saisir ce premier moment de la liberté. J'insiste parce que c'est toujours très important, ça. Oui. Quand vous prêchez des retraites au terminal, n'oubliez jamais que c'est extrêmement bon de faire un petit cours de philosophie sur la liberté. Amour et liberté. Là, à tout, ça porte.
Est-ce que c'est parce qu'on ne connaît pas tout de Dieu qu'on est libre vis-à-vis de Dieu ?
Attention, je ne vais pas parler de Dieu ici tout de suite parce que je n'ai pas la vision béatifique. Vous voyez ? Et je parle au plan philosophique. Je parle d'un bien limité, une personne humaine. C'est ce que je parlais de vice idéal. Une personne humaine. Vous voyez ? Et comme Dieu, je ne le vois pas. Vous voyez ? Au point de vue philosophique, je ne vois pas Dieu. Dieu reste le bien qui m'attire. Je sais qu'il existe. Je ne le vois pas. Sorte que, naturellement, j'ai un amour très limité de Dieu. Et c'est toute la question de la vertu de religion, qu'on verra après. Oui ?
Vous pouvez redire le lien entre la capacité d'aimer et la ratio humaine ?
Les deux s'appellent. C'est une vision, vous voyez, critique de sagesse. En critique, en philosophie, en métaphysique, en jugement de sagesse. Oui. Dans un jugement de sagesse, vous pouvez comprendre que votre appétit naturel est fait pour l'infini.
Il est fait pour l'être premier, ce que je veux dire en jugement de sagesse.
En vision de sagesse.
Mais au point de vue simplement éthique.
Mais, oui, l'éthique n'est complète que s'il y a une métaphysique et un jugement de sagesse. Je me rattrape. Venez. Je ne pouvais pas le dire de façon descriptive, vous n'avez jamais décrit un appétit. La rature me dit, hein, vous ne les touchez pas. Mais intellectuellement, vous les touchez. Il y a un toucher intellectuel comme la ratio indis. Donc la ratio me dit, elle est découverte dans tel bien a le bien, donc il a la ratio me dit. Et dans un jugement de sagesse, je sais qu'il y a en moi une capacité infinie à l'égard du qui explique le fondement de la liberté. Alors, saint Thomas, lui, parce qu'il est théologien, il note comme ça. Il parle de la ratio bonae comme ça, tout bonnement. Vous voyez ? Mais philosophiquement, je dis bien, philosophiquement, je ne peux préciser cela que dans un jugement de sagesse. Oui ? Comme ici, nous sommes en éthique chrétienne, le jugement de sagesse est présupposé. Religieuse. Une éthique religieuse peut faire appel à un jugement de sagesse. Oui.
Du point de vue éthique humaine, est-ce qu'il y aura des signes ?
Dans un point de vue éthique humaine, vous vous souvenez quand j'ai fait ? Vous vous souvenez ? Je l'ai pris d'un point de vue purement descriptif. Pas plus. Je n'ai pas cherché le fondement. Exprès. Tandis que si je cherche le fondement, ce que je vous dis là, je ne l'ai jamais dit. Je ne crois pas. Parce que je vous donne le fondement de la liberté. Et je ne peux le donner que justement dans un jugement de sagesse. C'est très important. Oui. Et en éthique religieuse, en éthique chrétienne, c'est présupposé connu. Oui. En éthique purement humaine, qu'est-ce que je fais ? Je constate. je constate que j'aime telle personne, j'aime le chocolat. Et à côté de moi, il y a quelqu'un qui dit « Ah non, ah non, moi j'aime pas du tout. » J'aime telle ou telle chose. Et à côté de moi, pas du tout. Quelqu'un vous fait un plaisir énorme, il vous offre des navets que vous n'avez pas du tout. C'est un plaisir énorme, il n'y a rien de meilleur que les navets. C'est excellent, c'est une délicatesse extraordinaire. Donc, il vous fait un plaisir. Et puis à côté, il vous dit « Non, je n'ai jamais pu sentir les navets. » Et puis ça arrive constamment sans vie commune. Délicatesse, c'est des petits plats qu'on offre à tel frère qui a besoin d'un régime. On ne sait même pas ses goûts. Mais on les fourre, ça. Et il est obligé de le prendre. C'est le seul élément qu'il a. On ne voit pas qu'il fait un acte héroïque. Et on veut lui augmenter un petit peu. C'est affolant. Et donc philosophiquement je constate qu'il y a des goûts et des couleurs, je ne discute pas. Il y a un appétit naturel à l'égard de tel ou tel aliment, il y a un appétit naturel à l'égard de telle ou telle personne. Je dis fondamentalement là, c'est, mais l'être sauvage, il y a de bien sauvage sur lesquels on ne raisonne pas. Mais bon, alors, il y a donc cet appétit naturel. Et puis je vois que je peux très bien, je suis suffisamment conscient, je peux très bien dire oui ou non. Sauf quand vous êtes en face de tellement quelqu'un, tellement passionné, que je ne peux pas faire autrement. Ah, il faut que je sois fidèle à cet amour que vous avez. Est-ce que vous avez aimé dans votre vie? Ah, jamais. Ce qui arrive, ça. Quand les gens disent qu'il faut être fidèle à l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Fidèle à la vie. J'ai eu plusieurs prêtres, dans les années 68, qui quittaient tout en disant vous êtes fidèle à la vie. C'est-à-dire fidèle à cet amour qui est né en eux. Ça, des prêtres à 35 ans, 40 ans, on a fait beaucoup de thé. Là, vous n'avez jamais fait un acte libre. Vous ne savez pas ce que c'était que l'amour. Alors, subitement, oui, le volcan. Il y a un minimum d'expériences dans sa vie qui sont nécessaires. On appelle un chat un chat, on appelle un chien, on appelle l'amour l'amour. On ne sait pas ce que c'est. Et alors, on sait que cet amour, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Et ça, on en a l'expérience. On est conscient de ça. Quelqu'un dit, ah, j'aime, que les il faut être fidèle. Mais non, est-ce que c'est bien? Oui? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que vous êtes libre? Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes déjà engagé? Celui qui s'est déjà engagé, il a mis l'orientation vers un sens. Il n'est plus libre de casser cet engagement. Sauf si l'autre l'a rompu. Quand c'est avec Dieu, entièrement tu es fidèle. Donc, on ne peut pas avoir rompu. Donc, il faut accepter qu'on n'a pas le droit d'accepter cet amour. Et qu'on dit non, il n'y a pas le droit. Même si c'est magnifique, on n'avait jamais pu penser ça avant de s'engager, mais je n'avais pas pensé que c'était quelque chose de si grand. Ah, vous êtes engagé. Vous aviez des œillets à ce moment-là. Heureusement. Autrement, vous n'auriez pas pu vous engager. Elles sont tombées après. Ah, tant pis, hein, soyez fidèles. Mais c'est la trappe, ça, vous savez. C'est comme ça que les souris se laissent prendre. Ils voient un petit fromage, ils oublient de voir les choses, ils se laissent prendre. Vous voyez, l'acte humain comprend. L'acte humain consiste à avoir suffisamment de lucidité pour savoir ce que c'est que s'engager. Promesse. Pour la vie. Par le fait même, à ce moment-là, on met une limite, on met une orientation. Quand il s'agit de Dieu, vous comprenez, on ne peut jamais se tromper. Parce que Dieu est Dieu, et Dieu c'est le bien suprême. On peut avoir des moments de faiblesse, dire c'est très ennuyeux, j'ai fait ça sous l'influence, c'est toujours comme ça, j'ai fait ça sous l'influence de quelqu'un qui m'a influencé à ce moment-là, qui m'a mis des écailles sur les yeux, qui m'a fait comprendre que c'était... Bon, maintenant, oui, mais attention, quand vous êtes engagé positivement vers le meilleur, celui qui a été là, il a été votre sycomore, il vous a porté pour que vous puissiez voir un peu plus loin. Alors, vous voyez, moi, après, c'est très vrai. Alors, on regarde la tentation. Vous voyez, la tentation, c'est ça. On y reviendra sur la tentation. Mais c'est intéressant, moi, que la tentation, c'est justement de ne pas accepter une promesse antérieure. C'est tout le temps comme ça. Ève avait promis, puisqu'elle avait la foi librement. Elle avait promis d'obéir à Dieu. La séduction est tellement forte. J'avais pas vu ça. Donc, je me détourne. Oui. Et ça, c'est très très important. C'est pour ça que c'est très important philosophiquement et pour notre vie, pour la lucidité qu'on doit avoir. Il faut être lucide vis-à-vis de ce que c'est que la liberté et voir comment naît la liberté. Et la liberté naît parce qu'il y a en nous, fondamentalement, une capacité infinie d'aimer. Et cette capacité infinie d'aimer, regarde la ratio bonnie, et ne peut être satisfaite concrètement que par la vision de Dieu, que par Dieu qui s'en est. C'est pour ça que si tout le monde était lucide, tout le monde serait religieux. C'est évident. C'est une évidence. On est fait pour ça. Il y aurait des quantités qui partiraient au bout d'un certain temps, ça c'est sûr. Mais si on est lucide, notre intelligence et notre volonté ont un appétit infini. Donc on sait d'avance que personne ne peut nous satisfaire. Et vous choisissez la carotte ou le navet en sachant que ça ne vous satisfera pas. Alors que vous savez qu'il faut faire un pont pour découvrir la ratio bonnie. Je prends ça exprès pour que vous compreniez, vous voyez. Mais toutes les applications symboliques, on voit très très bien ça. Et c'est très important ça, parce que c'est la tentation, elle est là. Parce qu'on n'a pas compris qu'on portait en nous un appétit infini vers le bien et vers le vrai. Alors vous voyez, une fois que vous comprenez ça, cet appétit spirituel qui porte sur tel ou tel bien, vous pouvez l'accepter ou le refuser. Affirmation ou négation. Oui, ça fait partie de ce qu'on voyait ce matin. Affirmation ou négation. Vous pouvez fuir. Et quelquefois, il faut fuir très loin. Il faut accepter pendant un an de ne plus voir telle personne. Il faut fuir. Si on comprend profondément ce qu'il y a en nous, on doit aller comme ça. Pour être fidèle. C'est-à-dire pour respecter ce que c'est que cet appétit spirituel. Pas le briser. Le reconnaître. Donc, la naissance du premier, la première liberté, elle est là. Et vous voyez que cette liberté-là, les scolastiques l'appelleront la liberté d'exercice. Je ne sais pas si le mot est très bon. Il faudrait voir. Il faut le donner parce que c'est un terme classique. La liberté d'exercice, je peux poser cet acte, j'accepte cet amour ou je l'accepte pas. J'accepte d'exercer cet amour, pas l'exercer. Alors il faudrait dire, je crois qu'il faudrait dire la liberté fondamentale, moi. La liberté fondamentale par rapport à ce que... Parce que la liberté d'exercice, vous voyez, comme si partout on pouvait refuser ou accepter l'exercice, c'est le même, c'est pas du tout la même chose. Il y a des niveaux de liberté. Et pour moi, cette liberté-là, c'est le niveau fondamental. Et c'est pour ça que c'est si important. Les quantités ne voient pas ça. Télescope, ça. Mais tous ceux qui disent qu'il faut être fidèle à la vie, ils n'ont pas vu qu'ils étaient libres. Alors vous allez dire, est-ce que c'est possible pour eux de voir qu'ils sont libres? Oui, là, on est d'un point de vue psychologique. le conditionnement. Vous êtes passionné. La passion aveugle, hein, on le dit toujours. Donc, la passion lie et supprime la liberté. C'est évident que quand la passion est très très forte, alors vous pouvez donner un conseil, si vous êtes un ami, et que l'ami accepte encore d'écouter le conseil. « Mon vieux, tu vois bien que tu es très passionné. Prends un peu de recul. » Et quelquefois, la passion supprime, ne tombe pas. Il faut du temps. Tout dépend de la profondeur de la passion. Mais la passion ne fonde pas la liberté. Quelqu'un de passionné n'est pas libre. Donc il ne pose plus un acte humain. Ce qu'il excuse. Certains vont se poser la question en disant, quand la passion est antécédente, elle diminue la responsabilité. Elle peut arriver même à la supprimer complètement. Ça qu'on ne peut jamais juger d'extérieur. Mais c'est catastrophique. Parce que ce qui est fait selon la passion, un jour ou l'autre, forcément, un jour ou l'autre, l'eau ne va plus bouillir, la passion tombera, on se dira, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et mes amis m'ont rien dit. Et mes amis m'ont laissé partir avec ça. Alors qu'ils auraient dû, eux. Et les amis diront, non, on te l'a dit. Et tu l'as complètement oublié. Et tu n'as pas voulu l'accepter. Parce que quand on est passionné, on n'écoute plus l'autre. Hein. Il n'y a que l'amour spirituel qui est capable de recevoir des conseils. Un amour passionné ne reçoit plus de conseils. Non, ça veut bien. Vous ne demandez jamais conseils quand vous êtes passionné. Vous voulez vous justifier, mais vous ne demandez pas conseil. Parce que l'amour passionné est déterminé autonome. Donc je n'ai pas de conseils à donner. Je n'ai pas de conseils à demander, je veux dire. Ce qui est déterminé autonome. Seul rail. On va le plus vite possible. On précipite les événements. Toujours, toujours la passion. Donc, il y a un premier amour, la première liberté. Une seconde liberté, beaucoup plus facile à comprendre. Bon, cet appétit spirituel, dans la mesure où je l'accepte, il devient une intention. Nous l'avons vu, ça. Je reprends ici exprès pour la liberté. Une intention de vie. Ce bien se transforme en fin. La naissance de ce que représente la fin, la fine, ce qui me finalise, le bien qui me finalise, c'est toujours à l'intérieur du bien que je découvre la fin. Ce n'est pas à l'intérieur de la fin que je découvre le bien. Ça, c'est Descartes. Et tout est inversé. C'est extraordinaire. C'est à l'intérieur du bien que je découvre la fin. Parce que la fin implique le, je veux dire, le bien implique la fin et implique les moyens. Bon, cette intention de vie, je l'ai posée librement. Toute intention de vie présuppose la liberté. Tandis que tout amour ne présuppose pas la liberté. C'est pour ça que je suis responsable de cette intention de vie. La grande intention de vie, je veux me donner au Seigneur. J'ai opté. J'ai opté pour la ratio bonus. Dans toute sa pureté, dans toute sa force. J'ai opté pour la ratio bonus dans son absolu. Donc Dieu, c'est ça que je cherche. Donc là, j'ai une intention de vie. Et cette intention de vie, elle est libre. Je l'exerce librement. Alors, à partir de cette intention de vie, il va y avoir le choix des moyens. Parce que dès qu'il y a fin, il y a moyen. Mais prenez la distinction. À l'intérieur de l'être, en tant qu'être, vous distinguez substance et accident. à l'intérieur du bien, en tant que bien, ratio bene, vous distinguez fin et moyen. Pour découvrir les moyens, il faut avoir découvert la fin. Autrement, vous faites des confusions. Des gens qui confondent toute leur vie, les moyens et la fin. Ils se cassent le nez à l'instant. Il faut distinguer les deux. Si on a des intentions de vie, très bien, on a une finalité. Notre vie est finalisée. Et une fois que notre vie est finalisée, on cherche les moyens pour que cette fin, on puisse l'acquérir. Parce que qui dit fin, dit quelque chose qui est au-delà de ce qui est immédiat. Et c'est à partir de l'intention de vie qui porte sur une fin qu'on découvre que l'amour que nous avons pour ce bien est intentionnel. Qui n'est pas réel. Donc que je dois acquérir cette fin. Cette fin est loin de moi. Je dois l'acquérir. Comment l'acquérir ? Les moyens qui me rapprochent progressivement, qui me mettent plus ou moins proche. Et alors, il y a donc immédiatement le choix des moyens. Et là, vous avez ce second type de liberté, la liberté de choix. Beaucoup aujourd'hui refusent. Beaucoup. Ce serait très intéressant de voir pourquoi on refuse la liberté de choix. Vous voyez, les Freudiens n'acceptent pas la liberté de choix. Je reprends l'exemple. Vous avez une intention de vie. Vous voulez vous donner entièrement au Seigneur. Vous cherchez où ? Le lieu. Pourtant le lieu. Vous dites, tiens, il y a eu des poteaux indicateurs qui vous ont indiqué une route. Rimont. Il y avait des poteaux indicateurs, comme pour le petit poussé. Rimont. Entre deux, il y avait d'autres choses. Faucombeau. Et là, à un moment donné, vous êtes dit, tiens. Bois le roi. Alors, ça a changé. Vous avez dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est pas la même chose ? C'est curieux. Il y a des gens qui confondent. Il y a des gens qui arrivent à distinguer. Alors, vous avez la liberté de choix. À l'intérieur de l'intention de vie. Il n'y a pas de liberté de choix s'il n'y a pas une intention de vie. C'est pour ça que, vous voyez, les psychologues ne voient plus la liberté de choix. Parce qu'il n'y a plus de liberté. Il n'y a plus de finalité. Donc il n'y a plus d'intention de vie. S'il n'y a plus d'intention de vie, vous ne pouvez plus avoir liberté de choix. Ça n'existe pas. La liberté de choix ne peut exister qu'à l'intérieur d'intention de vie. Moi, il n'y a rien. Vous voyez là, donc, la naissance de cette seconde liberté, qui est une liberté de choix. Vous avez choisi un moyen. Et on vous demandera, est-ce que c'est bien librement que vous entrez dans la communauté sainte? Ou est-ce que de fait, c'est parce que vous avez rencontré telle ou telle personne qui était dans la communauté Saint-Jean et que vous avez eu envie de les retrouver? Alors à ce moment-là, il n'y a plus de liberté, c'est la passion qui fait télescoper la liberté de choix et qui dit ça s'impose à moi. Et non, c'est un moyen. Un moyen ne s'impose jamais. Prenez du recul et vous verrez que c'était qu'un moyen. Alors vous pouvez discuter en disant ce moyen est plus adapté à moi, ce moyen est plus adapté. Êtes-vous engagé ? Êtes-vous libre ? Oui, tout ce qui vient là, et on voit très bien le point de vue psychologique, qui ne voit pas ce premier amour, cette intention de vie, et qui est à ce niveau-là. La psychologie est à ce niveau-là. Tout de suite. Ça, vous pouvez tout de suite le détecter. Il suffit de faire une coupe. Immédiatement, vous voyez. À quel niveau c'est? On le voit pour nous et on le voit pour les autres. Alors, vous voyez, on a ces deux libertés, on va en avoir une troisième, qui sera la liberté d'exercice au niveau de l'exécution. C'est là où j'appellerais liberté d'exercice. Je dirais liberté fondamentale, liberté de choix, et dans la liberté de choix, il y a du plus et du moins. Parce que vous pouvez aimer les carottes ou aimer les navets. Si on vous sert les deux, évidemment, si vous êtes au régime, on vous sert aucun. Pas de choix. Seule liberté, c'est la suspension. Je ne sais pas, vous dites non, t'as la raison, je n'ai pas faim aujourd'hui. Vous ne dites pas, je n'aime pas les navets, mais je n'ai pas faim aujourd'hui. Je me détourne, je ne la regarde pas. Alors, la liberté de choix peut se transformer en une liberté fondamentale. Et vous n'osez pas dire, avouer. Puis alors, la liberté d'exercice au niveau de l'impérium. Vous avez choisi, il faut se jeter à l'eau.